fabrique médiatique.
Pour moi, c'était une émission politique. D'ailleurs, beaucoup des questions que m'a posées Madame Le Marchand, beaucoup d'entre vous me les avaient déjà posées. La, 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 la,
la, la, la. Enfin être amie des femmes.
Vous avez un point commun avec Jean-Luc Mélenchon, c'est lequel ?
On aime les chansons de Carla Bruni.
Ça, c'est vrai. Le deuxième.
On n'aime pas François Hollande.
Vous n'aimez pas les femmes qui disent des mots crus.
Oui, c'est vrai, j'aime pas tellement ça. Une femme qui se comporte comme un homme, et en plus comme un homme vulgaire, honnêtement, je trouve pas que c'est un charme énorme.
Alors, quand vous étiez petite, vous étiez très garçon manqué. On vous appelait Miss Trompe-la-Mort. J'ai eu des fractures, des entorses, traumatismes crâniens.
Oui, oui, j'ai
tout. Il paraît que vous étiez le champion de la tarte citron. Comment vous faites la meringue ? Moi, elle reste molle.
Bah, la mienne, oui, elle restait aussi pas formidable.
Ah bon ?
Comment parler publiquement de soi-même sans taire plus qu'on ne raconte ? Ce que montrent les candidats, ça n'est pas ce qu'ils sont, mais c'est ce qu'ils montrent, rien d'autre.
L'oreille de Yacine Bouzard sur cette semaine qui fut celle du sacre de l'intimité en politique avec des effets contrastés. Avant-hier ont été publiées les confessions de François Hollande sous la plume de deux journalistes, Fabrice Lhomme et Gérard Davet, et les lettres d'amour de François Mitterrand à Anne Pinjot. Mais ce qui a provoqué un débat a surtout été la nouvelle émission de Karine Le Marchand sur M6, Une ambition intime, dont la première a été diffusée dimanche dernier. Le principe de cette émission est le suivant, pendant 2 heures, dans des décors qui leur ressemblent, avec photos de famille au mur, Karine Le Marchand reçoit tour à tour les candidats à l'élection présidentielle. Dimanche, se sont donc succédés Nicolas Sarkozy, Arnaud Montebourg, Bruno Le Maire et Marine Le Pen, auxquels Karine Le Marchand a demandé, tout en buvant un verre de vin, de lui parler de leur enfance, de leur parcours, de leurs amours, de leurs passions, etc., en toute intimité. Certains y ont vu la consécration de la dépolitisation du politique. D'autres constatent que l'époque est à la personnalisation du pouvoir et qu'il n'y a pas de mal à cela. L'ambition intime fait-elle partie de la politique ou contribue-t-elle à l'achever ? Qu'est-ce que ce genre d'émission dit de la politique et fait à la politique ? Façon de renouveler l'exercice pour les journalistes, autant de questions que nous avons eu envie de poser à deux journalistes de Radio France. D'abord Antoine Mercier, que j'ai le plaisir de retrouver à cette table matinale.
Bonjour. Bonjour Antoine. Aussi, ça me fait plaisir. Bonjour Caroline.
Et Jean-Marc Four, bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
Directeur de la rédaction de France Inter, où vous animez chaque vendredi une chronique sur les médias. Première question pour vous, Antoine Mercier. Vous avez tous les deux d'ailleurs regardé cette émission dimanche soir. Qu'en avez-vous pensé, Antoine Mercier ?
Alors moi j'en ai pensé plutôt du bien, je vais m'expliquer tout de suite parce que c'est rentré dans le mauvais rôle rapidement puisque quand même globalement on a vu que cette émission avait été très critiquée par la corporation de façon générale. Je précise tout de suite que mon appréciation positive est relative aux émissions.
Que de prudence, Antoine.
Non, c'est relative aux autres émissions politiques, c'est-à-dire que quand on nous explique que les gens qui viennent parler de leur vie privée, de leur enfance, ils veulent se montrer, bon évidemment dans les émissions dites sérieuses c'est la même chose, donc cet obstacle-là, ils se sont des candidats. Donc, ils essayent de se faire bien voir, valoir dans toutes ces genres d'émissions télévisées. Donc, premièrement, c'est relativement à la politique classique telle qu'on l'envisageait. J'ai trouvé, personnellement, déjà en tant que téléspectateur, que cette émission se regardait assez facilement, était quand même globalement intéressante et que sur le fond, malgré tout, effectivement, il y avait un intérêt,
lequel ?
Je dirais politique, à connaître... l'enfance, une partie, évidemment, tout ça est assez restreint et très monté, mais enfin, malgré tout, de connaître des éléments de la formation, de la jeunesse de tous ces candidats. Évidemment, ça ne suffit pas, il faut aussi des débats de fond, mais ça me semble relativement intéressant d'essayer de comprendre, de percevoir, de connaître ce que les candidats ont vécu politiquement dans leur enfance et comment ils ont pu ensuite effectivement avoir l'envie finalement d'aller au pouvoir. C'est ça qui ressort beaucoup. Qu'est-ce qui a été le moteur de cette ambition, j'allais dire terrifiante finalement qui
La tarte au citron, c'est un moteur politique.
Bon, la tarte aussi. Il y a évidemment beaucoup de gadgets.
Ou le phare breton.
Non, mais il y a beaucoup de gadgets dans cette émission qui sont des mises en forme sur lesquelles on peut revenir. Mais sur le fond, quand même, il y a un grand nombre d'éléments, peut-être qui ont été dits déjà, comme l'a dit Montebourg, qu'il avait déjà répondu à ces questions, mais malgré tout, il y a un grand nombre d'éléments qui sont pertinents. Cette connaissance intime, moi, j'ai été à la fois intéressé et parfois, j'ai perçu de l'intérieur des choses que je n'avais pas vues forcément, spontanément, et cette émission me les a révélées.
Ce type d'intimité a un intérêt politique, Jean-Marc Four ?
Non.
Alors me voilà placé dans la position de l'avocat de la corporation, n'est-ce pas? Bon, c'est pas la programmation musicale était pas mal au demeurant. Moi j'ai bien aimé moi les chansons, mais bon, je parle d'une ambition intime là. J'ai rien contre Karine Le Marchand, j'ai rien contre M6, enfin j'ai rien contre l'émission en tant que telle. Hein. Elle ne m'intéresse et ne nous intéresse d'ailleurs ici qu'en tant que symptôme, on va dire, ou signe indicateur d'une évolution du traitement de la politique dans les médias. Donc c'est bien de ça dont on parle. Enfin moi je n'entends parler que de ça et en aucun cas. Bien évidemment des personnes. Et si vous voulez, pour moi, de deux choses l'une. Soit il y a tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire que on est face à un truc qui est pipoté de A à Z. Ce qui est mon hypothèse préférentielle, personnellement. C'est-à-dire que je ne vois pas en quoi on peut faire une confession intime dès l'instant où elle se déroule devant des millions de personnes. Ce que je veux dire, c'est que par principe, la confession intime, c'est vous avec un témoin presque unique, j'ai envie de dire. Alors, après, vous choisissez le curé, l'instituteur ou le psychanalyste, c'est comme vous voulez. Donc, soit c'est une tromperie, un tour de passe-passe, un mensonge, une manipulation pour dire les choses, c'est-à-dire
donc
que
on va pas parler d'intimité à la télévision.
Non mais attendez Antoine, merci. Juste une seconde. Soit on est sur cette hypothèse-là, c'est-à-dire que chacun des invités a plus ou moins brodé sur une histoire personnelle pour faire croire quelque chose sur lui. C'est quand même personnellement l'hypothèse que je privilégie parce qu'on est en plein dans de la télé-réalité. C'est la première option. Deuxième option, donnons-leur le crédit de la bonne foi, ils ont raconté de bonne foi quelque chose qui est important pour eux et qui est vrai et qui est vraiment une confession entre guillemets intime. Mais là, moi, ça me pose un autre problème. C'est-à-dire que je pense que la qualité, le propre d'un homme politique ou d'une femme politique qui aspire à des fonctions d'État, c'est précisément de savoir mettre à distance les questions d'ordre privé. C'est précisément de ne pas être touché dans l'exercice de sa fonction publique par ce qui peut relever de l'affect privé. Je pense que c'est absolument essentiel sur le bon exercice d'une qualité d'homme politique.
Pour quelle raison, Jean-Marc
Faure ? Parce que je pense que précisément la qualité du dirigeant, c'est quelque part d'être, je crois que c'est François Mitterrand qui disait ça, d'être indifférent. Il faut une forme d'indifférence. Et particulièrement, il faut pouvoir mettre à distance sa vie privée. Ce que d'ailleurs, nos derniers dirigeants, à mon sens, n'ont pas su faire. Et dans ce deuxième cas de figure, ça nous démontre que le personnel politique est nul. Et alors, on participe, c'est la question que vous souleviez au départ, de la décrédibilisation de la politique. Et à dire vrai, je n'arrive pas à me sortir de cette alternative. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais dans les deux cas, je vois quand même un souci majeur.
On peut considérer à ce titre-là, Jean-Marc Faure, que l'émission de Karine Le Marchand n'est pas responsable, que la politique n'a pas attendu une ambition intime pour être décrédibilisée ou pour être dépolitisée, et que à ce titre-là, elle va au bout de la logique. Elle
Mais
prend acte du fait qu'aujourd'hui, les électeurs, on ne cesse de le dire, et dans les sondages aussi, que les électeurs ne se prononcent pas pour les candidats, pour des idées, pour des programmes, mais sur des personnalités.
Absolument, mais on est entièrement d'accord sur ce constat. C'est-à-dire qu'il y a une demande, entre guillemets, on le voit bien, de téléspectateurs en l'occurrence. Il y a une demande, mais les médias sont-ils là pour satisfaire la demande ou pour être dans une logique de l'offre? On en parle ici sur France Culture, c'est le bon endroit. Bon, première observation. Deuxième observation, les politiques eux-mêmes participent grandement de ce phénomène, bon, puisqu'ils pensent qu'ils peuvent instrumentaliser par ce qu'ils donnent de leur vie privée, le vote. Reste que malgré tout, oui, il y a une forme d'irresponsabilité médiatique, à mon sens, à aller de plus en plus dans ce sens-là. Et j'ajoute un autre paramètre, c'est que cela, c'était le raisonnement d'Antoine Mercier à l'instant, cela laisse penser que quelque part une forme de vertu privée aurait quoi que ce soit à voir avec une compétence publique. Et je ne crois pas, en fait. Je ne crois fondamentalement pas. Les exemples dans l'histoire sont multiples de gens qui n'étaient pas particulièrement vertueux sur le plan privé. Et en plus, encore faudrait-il définir ce qu'on entend par vertueux, et qui, par ailleurs, étaient de grands hommes d'État. Donc, je vois juste pas le rapport, en fait.
Oui. Antoine, merci.
Là, c'est effectivement un problème de fond, parce que est-ce que la vie privée d'une personne est totalement indifférente? Est-ce qu'elle n'est pas d'une certaine façon en rapport avec, non pas des positions publiques directement, parce qu'on peut avoir une enfance X ou Y et avoir des positions différentes, c'est pas le problème, c'est pas un déterminisme de la vie privée sur l'engagement public. Mais malgré tout, c'est assez français, me semble-t-il, de dire « je pense donc je suis » et que le « je suis », c'est uniquement ce que je pense. Or, le « je suis », c'est pas uniquement ce que je pense, c'est aussi la manière dont j'incarne mon personnage, la manière dont je me comporte. Je veux bien faire cette différence entre le privé et le public. Mais je ne pense pas qu'il soit bon de faire un cloisonnement. Et je pense que ce cloisonnement, il est quand même assez spécifiquement français, que jusqu'à présent, effectivement, par rapport aux États-Unis notamment, on avait vécu sur ce régime de dissociation complète, et que maintenant, on en sort parce que je crois que c'est le système français peut-être qui évolue là-dessus. Et je ne suis pas sûr, même si c'est fait raisonnablement, je ne suis pas sûr que ce soit forcément un désavantage que de associer à des positions publiques, à des positions politiques, une personnalité. J'ajoute une chose, c'est là où je serai beaucoup plus sévère, moi, sur les émissions dites sérieuses, c'est que les émissions dites sérieuses ne vont pas assez loin dans l'introspection, la manière dont les gens ont une vision du monde, où est-ce qu'ils nous amènent précisément, soit relancés par les journalistes de façon extrêmement précise et concise. Et je dirais qu'il y a vraiment un manque terrible d'émissions politiques qui va jusqu'au bout. Est-ce qu'on arrive à dire à François Hollande, alors la crise par exemple, expliquez-nous quelle est la situation aujourd'hui de la situation économique globale. Faites-nous un petit peu un état des lieux. Comment ça marche? Pourquoi ça ne marche pas si bien que ça? Plutôt que de lui demander, est-ce que vous allez baisser les impôts ou pas les impôts, etc. Tout ça, ça manque dans les émissions sérieuses.
Donc, a reproché à Karine Le Marchand un copinage, une bienveillance qui allait à la complaisance, un manque de contradiction. Y a-t-il de la contradiction chez les journalistes politiques traditionnels, disons, Jean-Marc Four?
Là, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Antoine Mercier. C'est-à-dire que dire il y a une dérive dans des émissions comme celle de M6 n'est pas dire les émissions politiques classiques sont formidables. Pas du tout. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Antoine Mercier. Ah, vraiment. Et puis, la connivence, alors là, très mauvais procès fait à Karine Le Marchand, pour le coup. Alors là, entièrement d'accord, parce que ce procès-là, à ce moment-là, il faut le faire à une bonne partie des journalistes politiques français. Hein. Juste pour revenir sur cette histoire de connaissance de la vie privée, parce que c'est là le cœur du sujet, quelque part. Moi, ce que je pense, c'est que, si vous voulez, soit ça émarge, quelque part, au pénal. C'est-à-dire que, si un dirigeant politique viole des enfants, si vous voulez, ça émarge au pénal, et puis à ce moment-là, c'est évidemment qu'on a vocation à connaître ça. Ça va de soi. Mais soit on est dans quelque chose qui, finalement, relève de la morale. Donc, on bascule dans quelque chose qui est de l'ordre du jugement moral.
Parce que quand vous voyez
vous donnez un exemple américain, c'est quand même typiquement ça. On est dans une forme de pudibonderie, de jugement moral. Et les médias se mettent à décider de où commence la vertu et où elle s'arrête. Moi, ça me dérange.
Quand on voit Bruno Le Maire essayer de se dégager de son éducation extrêmement bourgeoise, quand on voit Bruno Le Maire être incapable de parler avec son père, n'avoir jamais pu avoir une conversation avec son père, se demandant même aujourd'hui
ce qu'il dit.
Bon, ce qu'il dit.
Voyez bien, Antoine Mercier, qu'il y a quand même une forte victoire là de la communication, puisqu'ils sont arrivés chacun avec l'idée de contrer les défauts de leur image publique. On a vu Arnaud Montebourg avec cette idée de bourgeois devenir fils de charcutier, Nicolas Sarkozy stressé devenir un homme apaisé, Bruno Le Maire plutôt avec l'image de l'homme coincé qui s'est montré plutôt sympathique, et Marine Le Pen, la grande méchante, qui s'est montrée très douce. Donc chacun y allait avec l'idée pertinente de changer leur image.
Un homme politique arrive dans n'importe quelle émission sans avoir une visée politique. Là-dessus, je crois que c'est vraiment un argument. C'est évident qu'ils ont une stratégie politique.
Je voudrais juste prendre un tout petit peu de recul pour terminer ce débat avec vous deux, Antoine Mercier et Jean-Marc Four, puisque j'ai commencé en disant que cette semaine avait été finalement le sacre de l'intime en politique, avec la parution conjointe de deux livres, même si on en a entendu parler depuis très longtemps pour celui qui concerne François Mitterrand et ses lettres d'amour à Anne. Mais le même jour est sorti Un président ne devrait pas dire ça, de Gérard Darmanin et Fabrice Lhomme. Est-ce que vous diriez que ces deux livres plus l'émission politique font partie d'un même tout? Jean-Marc Four, vous avez fait une chronique vendredi matin sur la mort du secret, précisément.
Oui, il y a un effet de contraste, effectivement, qui est saisissant. C'est-à-dire qu'on voit bien, dans le cas de François Mitterrand, qu'il avait non seulement le goût du secret, mais il a entretenu, il a dissimulé sa vie privée. Était-ce une mauvaise chose? Moi, j'ai tendance à penser que non, c'était une bonne chose, en fait. Voilà.
Ah, vous remarquez, Antoine Mercier. Pour les livres de François Hollande, ce qui est très intéressant, c'est que je crois que tous les candidats, à ma connaissance, ont accepté de participer à cette émission. Et tous,
ils y courent.
Ils y voient un levier de communication formidable.
Bien sûr, ils y courent. Même des gens comme Cécile Duflot, par exemple, qui trouvent que finalement, c'est bien de parler, effectivement, des raisons de son engagement, que ça fait partie de la personnalité de la candidate ou du candidat. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, le seul à avoir refusé, c'est François Hollande, à ma connaissance. C'est assez curieux, parce que finalement, à François Hollande, sur sa vie intime, ça serait aussi intéressant d'avoir des réponses.
Ah bah vous avez qu'à lire le livre de Davet et l'Homme.
Ouais, hein. Il dit pas pourquoi il ne s'est pas marié, pourquoi est-ce qu'il a un rapport avec les femmes de cette nature-là. Je ne suis pas sûr que ce soit si inintéressant que ça, malgré tout, même si, encore une fois, évidemment, ça ne fait pas une politique, et que sur la question politique, il faut qu'il y ait une exigence médiatique et journalistique beaucoup plus forte qu'elle n'est actuellement.
Antoine Mercier, Jean-Marc Four, merci beaucoup.